Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais des... Non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Qui avait dit le poil autrefois?
Non, cela est vrai, mais faites promptement, vous me dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro de janvier 2017 de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps, une émission coproduite entre Principe Actif et Le Tangram. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Donc au sommaire de cette émission, nous parlerons bâtard, nous parlerons programmation marionnette.
Bastard, effectivement, le 24 janvier au Cadran Evre, nous sommes allés rencontrer Christian Mousseau-Fernandez, le directeur du Tangram, pour qu'il nous présente ce spectacle.
Allez Oli, allô.
Allez, Oli, allô, on continue. C'est un sommaire très théâtre que nous vous proposons sur notre émission de janvier de rentrée, puisque l'actualité, puis aussi le mois de janvier est assez théâtral, mais aussi musical. Donc, allez, Oli, allô, on fait le grand plongeon, on saute, on se jette à l'eau avec un spectacle jeune public, mais pas que, vraiment destiné à tout un chacun. Allez-y avec vos enfants. On accueille les deux comédiens Marie-Charlotte Biais et Philippe Bautier pour nous en parler.
Et puis nous ferons un agenda non exhaustif de ce qui se passe dans notre localité, on va dire, agglomération large. Et puis nous terminerons avec un extrait de film.
Tout à fait. On peut le mentionner maintenant
ou pas.
Alors.
Surprise.
Surprise à la fin.
Eh bien, la surprise du début, c'est le moment de la retrouver. La traditionnelle prise de son, le moment de vie, un son à l'état brut.
On s'écoute ? On essaye ? Vas-y, ma puce.
Une, deux. Famille, en cours. Deux par deux ou trois par trois. On écrase du petit doigt. On abîme tout inutilement. Une, deux, la patrouille des éléphants, la patrouille des éléphants. Une, deux, famille, aliment, deux par deux ou trois par trois. On écrase du petit doigt, on abîme tout inutilement. Une, deux, la patrouille des éléphants, la patrouille des éléphants. Une, deux, famille.
Bravo,
voilà un extrait sonore. C'était pas des balances ou je sais pas, une captation d'une salle de spectacle.
Non, nous étions où?
Bah, nous étions ici même. C'était à l'occasion de la 15e année qui venait de s'écouler pour l'association Principe Actif. Un petit événement avec les animateurs et leurs familles. Et là, c'était donc une petite fille qui nous chantait la chanson des éléphants. Voilà, un moment de vie de la radio pour le coup, mais qui était facilement partageable.
On peut peut-être préciser un petit peu, en fait, du coup, à l'occasion de cet événement, de ce rendez-vous, les enfants ont été invités à prendre les micros, ont investi les studios de la radio.
Et puis ça se passe assez naturellement, hein. Mettez un casque et un micro à un enfant, c'est la fête, autant se le dire.
Finalement plus facile que pour nous adultes.
Bah, il n'y a pas tout ce blocage, bien entendu. Voilà, donc c'était un court extrait de cette soirée des 15 ans de Principe Actif sur laquelle les familles étaient invitées et les enfants ont pu s'amuser. On part en musique avec un tout premier morceau sélectionné par vos soins.
Oui, si, je te laisse annoncé.
On a tellement hâte de parler de tout ça. Oui, en fait, pour cette émission, la programmation musicale, elle est un peu dédiée à ce que vous allez pouvoir retrouver en fait au Tangram entre janvier et février-mars. Elle est liée en fait à la petite sortie là de ce que nous on appelle un petit tiré à part, mais c'est le bimensuel, le trimestriel en fait qui regroupe toute la programmation du Tangram, mais plus spécifiquement la programmation plus orientée musicale. Actuelle. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de cette émission de janvier pour vous faire entendre les artistes qui seront accueillis prochainement à Évreux.
Premier artiste choisi, Michel Cloupe, duo.
Nous qui cherchons encore qui nous sommes. Nous qui cherchons encore quoi faire. Nous qui cherchons encore un amour, un toit, un salaire. Nous qui rejetons le monde du travail tel qu'il est, nous qui le subissons, nous qui l'avons toujours refusé, nous qui résistons comme nous le pouvons, nous qui vivons en pleine contradiction, et qui le savons, nous, qui n'arrivons plus à dire nous. À nous parler, alors qu'à quelques détails près, si nous tracions une ligne, si nous tracions une ligne, nous serions tous du même côté.
Violent la coupure, hein, tout de même.
Ouais, là, on a tous été surpris. Michel Cloudio, nous n'arrivons plus à dire nous, qui, et donc ils seront présents le 27 janvier, vendredi 27 janvier, à la SMAC, à Évreux.
Bonjour Christian Mousseau-Fernandez, vous êtes directeur du Tangram, EPCC Évreux-Louviers-Eure.
Bonjour.
Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui pour nous parler du spectacle intitulé Bastard, qui sera présenté au Tangram donc le 24 janvier au Cadran à Évreux, pour un spectacle qui allie marionnettes, corps et danse d'un artiste néerlando-brésilien, de Duda Paiva.
J'étais en fait au festival de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc pendant ce festival, on voit beaucoup de spectacles. Et je découvre d'abord Bastard, puis un deuxième spectacle de Duda Paiva ensuite, mais d'abord Bastard. Et ça a été un moment particulièrement fort pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sortait de la marionnette, de la manipulation de marionnettes ou d'objets de façon classique, comme on peut l'avoir, on va dire souvent dans les spectacles. Et là, on avait des espèces d'objets complètement souples, puisque c'est de la mousse, hein, ce sont des grandes marionnettes humaines faites de mousse, donc j'ai presque envie de dire qu'elles n'étaient même pas manipulables, tellement elles sont molles, déjà en soi la marionnette est un objet assez étrange. Et en plus du propos évidemment de Boris Vian sur l'arrache-cœur, il y avait un espèce d'individu là qu'on va appeler le manipulateur, qui est aussi comédien, qui est danseur, et qui va donner vie de façon vraiment très très surprenante à ces marionnettes. Alors c'est un coup de cœur, hein, franchement, parce qu'il arrive à nous transmettre des émotions extrêmement fortes, avec encore une fois des espèces d'objets en mousse qui, lorsqu'on les voit en photo, sont pas spécialement beaux, faut quand même le reconnaître.
Oui, vous le disiez d'ailleurs, ce spectacle est largement inspiré de l'ouvrage de Boris Vian, de l'arrache-cœur. Il s'en est vraiment inspiré, ou c'est une adaptation libre à interprétation, libre adaptation de ce texte? Parce qu'on parle quand même des bas-fonds dans...
Ben ça démarre comme ça. D'ailleurs, le spectacle démarre dans une espèce de décharge... dans laquelle les personnages apparaissent... grâce à justement ce manipulateur qui d'ailleurs lui-même au démarrage est caché, mais je ne vais pas tout dévoiler du spectacle. C'est une libre inspiration de Boris Vian. Après, avec, je pense, pour Duda Paiva, la volonté de reconstruire un univers que lui s'est imaginé en lisant le roman. C'est-à-dire qu'il y a un côté surréaliste très très fort, en particulier lorsque Duda Paiva va manipuler, rentrer, puisqu'il rentre littéralement dans les marionnettes pour leur donner vie. Et c'est là où ça c'est complètement c'est juste surréaliste, c'est-à-dire que c'est évidemment pas possible, mais nous on y croit à fond, quoi. Surtout avec un personnage avec quatre jambes, avec une vieille bonne femme qui se retrouve avec des grandes pattes poilues, enfin c'est juste impossible, sauf qu'on y croit à fond, quoi. Donc c'est plein d'humour, comme Boris Vian savait le faire, et en même temps extrêmement attachant sur la relation qui se tisse entre les personnages et le manipulateur. Et dans un environnement où il y a, c'est à la fois parlé, il y a des grands moments aussi qui sont juste des batailles du regard, comme seule la marionnette sait le faire. Et puis bien sûr, quelques clins d'œil musicaux avec Boris Vian qu'on entend.
Est-ce un spectacle avec texte aussi, avec paroles? Oui,
bien sûr. Il y a du dialogue, quoi. Il y a un dialogue entre eux, entre les personnages. Après, c'est un peu de l'onomatopée à certains moments. Oui, il y a une histoire qui se déroule sous nos yeux de façon très inattendue.
Et une histoire humaine et sentimentale,
sentimentale, sexuelle aussi. C'est assez. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas pour les enfants.
Oui, alors on le précise, hein, ça faut bien le préciser. Ne venez pas avec vos tout petits, voire en disant tiens, marionnette, je vais emmener mon petit de 6 ans. Non, là, on est vraiment sur du théâtre plus adolescent.
Oui, adolescent adulte, hein, sans souci, avec oui, parce que c'est un rapport entre individus, un rapport au corps justement, parce que à la fois à travers l'humain, le vrai, d'un côté, et puis ces marionnettes, encore une fois, moi ce que j'aime beaucoup dans les spectacles de marionnettes, c'est qu'on arrive à aller dans des dimensions que l'humain seul n'arrive pas à avoir. Et là, c'est complètement le cas. C'est-à-dire que ces personnages-là, ces grandes marionnettes, elles font faire des choses incroyables aux manipulateurs. Et dans ce que ça raconte dans l'histoire, ce côté, comme je disais tout à l'heure, un peu en dehors de la réalité, fonctionne grâce aux marionnettes. Qui d'abord elles peuvent être manipulées de façon tellement extrême. C'est en ça d'ailleurs que c'est pas pour les enfants. Extrême tant dans le rapport très émotionnel qu'elles ont entre elles ou avec le comédien, mais aussi encore une fois sur c'est quoi la question du corps, c'est quoi faire l'amour avec une marionnette, etc. Enfin, c'est des choses assez brutes, je dirais. Et d'ailleurs, le spectacle n'y a aucun tabou, quoi. Aucun.
Il y a
Cécile.
Oui, parce qu'on a dit qu'il était danseur, chorégraphe en fait, metteur en scène, danseur, chorégraphe. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment on en vient à travailler avec la marionnette quand on est justement danseur. Alors la question du corps, on en a parlé un petit peu, mais du coup, en tant que lui danseur, chorégraphe, comment ça se traduit juste simplement dans la manipulation des marionnettes, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la danse, à proprement parler, ou c'est vraiment plus une appréhension du corps dans un contexte en gros qui est contraint ou démultiplié dans l'abord de la marionnette.
Il y a un très bon moment de danse un duo magnifique. Mais j'en dirai pas plus. Ça, faut vraiment bien voir le spectacle. Après, je pense que là où le spectacle est très proche de la danse, c'est qu'il pose vraiment la question de la présence. C'est quoi la présence du corps dans l'espace, sur le plateau, dans un univers qui est l'univers de cette décharge, donc avec des obstacles partout. Et en fait, elle est en miroir, c'est-à-dire que d'un côté, on a ce comédien, avec son propre corps, cette espèce de regard aussi qu'il a de façon très très forte, et c'est aussi lui qui donne vie à tout, y compris dans sa bouche. Et puis à côté, on a des corps qui s'animent, qui au contraire meurent aussi, on devient inanimé, et repose la question de la présence, parce que malgré tout ils sont là, parce qu'une fois qu'on a repéré où ils étaient, ils sont là. Et ça, la danse, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Après, évidemment, ils se mettent pas en mouvement tout seuls, et c'est là où il y a une, où c'est assez riche, parce qu'ils, et je pense que c'est là où il a un talent très très fort, c'est qu'il ne se contente pas de manipuler. Il fait corps avec la marionnette. Et donc il fait danser sa marionnette. Il lui donne une expression autre que par la matière et par la voix. C'est-à-dire par son déplacement, par sa grande souplesse, et des moments aussi très, je ne sais pas comment dire, mais qui paraissent complètement immobiles, mais comme en danse, où parfois les corps ne bougent pas et ils sont là, et c'est plus fort encore que le théâtre. Et c'est un mariage de tout ça, je pense.
Oui, la marionnette est un véritable partenaire interprète, en fait. Devient.
Oui, je pense. C'est, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Vraiment, avec... là, on est très sérieux sur, nos propos, mais c'est bourré de clin d'œil. C'est très, très drôle. C'est très drôle.
Oui, donc on passe, j'ai l'impression qu'on passe par une palette d'émotions aussi durant ce spectacle, qui est aussi bien de l'émotion première où on rit, où on est surpris, où on s'interroge, où on a un retour au sentiment. Enfin, j'ai l'impression aussi que ça... Mais ça dépeint bien aussi une palette d'émotions humaines dans, dans ce
Bah, je pense qu'il a... encore une fois, c'est à la fois chorégraphié, mais il y a une dramaturgie aussi qui est extrêmement écrite. Alors je pense qu'au démarrage on est très circonspect par ce qu'on est en train de voir, parce que on sait pas trop ce qui se passe, on ne voit pas les marionnettes, donc et lui non plus, et pourtant ça commence à bouger, et ça nous... Mais c'est ce que j'aime en tant que spectateur, c'est que les artistes arrivent à nous déplacer, c'est-à-dire que d'entrée de jeu il nous dit juste ne venez pas voir juste un Castelet avec avec trois marionnettes qui vont vous raconter une histoire. Ça va être autre chose, et cette autre chose, c'est vraiment pour moi c'est du théâtre de marionnettes, c'est-à-dire c'est aussi du théâtre. C'est-à-dire qu'il occupe un plateau. Il va être en représentation. Les marionnettes sont en représentation. Et il arrive très très bien à faire ça. Avec une prouesse physique. Hein. C'est parce qu'il faut y aller, faut occuper l'espace.
On rappelle, il est seul en scène avec en fait, ses marionnettes. Ça me fait rebondir sur lui, sur cet artiste, Duda Paiva. Néerlando-brésilien, vous aviez déjà vu d'autres spectacles de cet artiste ?
Non.
Qui m'a l'air tout à fait assez complet dans sa formation et dans.
Non, j'avais pas vu d'autres spectacles par Bastard. Ouais. J'en ai vu un autre après, alors encore plus dur sur la mort, mais toujours avec cette volonté de j'ai presque envie de dire de nos limites, c'est-à-dire que qui n'est permis encore une fois que grâce à la marionnette, en fait, parce que la marionnette déplace le récit, en fait, elle renvoie et il joue beaucoup là-dessus, quoi.
Et parfois elle met aussi une distance, une barrière vis-à-vis de nous aussi, peut-être faire passer plus de choses.
Oui, et il y a des choses qu'elle ne peut pas, parce que le langage, évidemment, il est porté par le comédien, mais encore une fois, enfin, souvenez-vous, on a tous vu ça, une marionnette regarder son propre manipulateur, c'est juste à chaque fois incroyable, surtout si lui-même et rentrer finalement dans à la fois dans le récit, mais aussi dans la relation qu'il a avec sa marionnette et avec ce personnage. Et alors là, c'est encore plus vrai, parce que c'est pas des petites marionnettes de 10 cm, donc elles sont imposantes, et encore une fois, elles sont complètement molles, donc elles n'arrivent à trouver une posture, comme on a une posture au théâtre, qu'à partir du moment où lui-même est en situation de posture. Donc on est face à un jeu entre eux qui est extrêmement fort. Et ça, c'est assez unique, je pense.
Bien, merci à vous.
Merci.
Et puis, nous vous conseillons ce spectacle mardi 24 janvier à 20h au Cadran.
Thank you guys so much. Thank you for letting me sweat in your brewery. I'm going to show you how I do this. Come on, look at my dirty, dirty gown. Don't care about pain and peace.
Et nous écoutions Bob Lock 3 avec Look at That, que vous pourrez entendre et venir écouter le mercredi 1er février à 20h30 dans la salle des musiques actuelles d'Évreux.
Depuis une semaine, à peu près, puisque depuis, pour être précis, depuis mercredi à Évreux, au Tangram, dans la salle du Cadran, nous accueillons la compagnie de Louise avec un spectacle qui s'appelle Allez, Oli, Allô. Donc on a commencé, enfin on joue en tout public et en scolaire, et nous avons le grand plaisir d'accueillir l'équipe artistique sur le plateau de l'émission ce midi, pardon. Marie-Charlotte Biais et Philippe Bottier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes respectivement grand-mère.
Mamie Olive.
Mamie Olive, merci. Arrière-grand-mère, ouais, parce que...
C'est ça.
Donc, Mamie Olive, ça c'est pour Marie-Charlotte. Et Philippe, vous êtes Oli, le petit garçon héros de l'histoire.
C'est ça. En quelques mots, suite à un incident physique, l'arrière-grand-mère arrive à vivre chez Oli.
Dans sa chambre même.
Ce qui pose d'ailleurs un petit problème au démarrage. Mais en tout cas, c'est un des problèmes, un point de départ de démarrage. Et puis, au-delà de ça, c'est une arrière-grand-mère qu'il ne connaît pas et qui va apprendre à découvrir à travers notamment la natation. On est à peu près sur ces thématiques-là. Alors, on touche la relation familiale à travers cette pièce. On touche un tas d'éléments. En tout cas, il y a quelque chose de très affectif qui s'apprend tout au long de cette scène, de ce spectacle. Vous adressez au jeune public, donc c'est à partir de 6 ans. Nous avons assisté à une séance où il y avait principalement des centres de loisirs, donc un public entre 6 et 12 ans. S'adresser à des enfants sur des thématiques qui peuvent être un peu abstraites pour eux, ces thématiques un peu de la filiation, de toutes ces choses-là. Vous l'avez abordé comment ? Enfin, comment est-ce qu'on aborde ce jeune public sur ces thématiques qui seraient presque des thématiques d'adultes ?
Je dirais que ce n'est pas la seule thématique. C'est-à-dire que je pense que ces enfants-là sont touchés... Effectivement, l'intergénérationnel, ça ne leur parle pas forcément. Quand on leur parle d'une arrière-grand-mère, il y a beaucoup d'enfants qui ont leurs arrière-grands-parents, vu que l'âge de vie augmente, la durée de vie augmente. J'ai souvent posé la question, et il y en a beaucoup qui ont leurs arrière-grands-parents. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'ils aient une relation aussi privilégiée que peut avoir Oli avec Mamie Olive. Mais l'autre thème, c'est le dépassement de ses peurs. Voilà. C'est ça que les enfants retiennent. C'est surtout... face à une peur qui peut être viscérale, totalement incontrôlable, comment on fait pour les dépasser ? Et effectivement, là, la Mamie Olive intervient et l'aide à dépasser ses peurs. Et ce thème-là est plus retenu, en tout cas, de la part des enfants. Après, on joue à la fois pour le jeune public, mais... d'ailleurs à Évreux on joue aussi tout public, et tout public c'est donc un mélange d'enfants et de parents qui accompagnent leurs enfants, plus des centres aérés qui y viennent, et je trouve que ce sont les meilleures représentations, parce qu'effectivement les enfants suivent Oli surtout que voilà, c'est un enfant de leur âge avec les préoccupations de leurs âges, et Mamie Olive c'est quand elle parle des fois ils disent bon passons à Oli. Et quand c'est des tout publics, c'est superbe, je trouve, parce que ça permet à Mamie Olive d'exister véritablement et d'être entendue par des adultes.
Alors ça parle effectivement au public enfant et au public adulte. Ouais. Sur cet enjeu, alors sans tout dévoiler, mais la problématique de dépasser de la peur, c'est autour de la natation notamment qu'ils vont se retrouver, et peut-être qu'effectivement ce double je sais pas comment l'exprimer, en tout cas cette double idée, en tout cas autour des dépassements de la peur et puis de la rencontre intergénérationnelle, parle peut-être différemment aux deux publics. Effectivement, jouer un enfant face à des enfants, j'imagine qu'il y a un enjeu particulier quand même, non ?
Très bonne question.
En tant qu'interprète.
J'ai quand même 40 ans passé et
je joue un enfant au début.
Oui, c'est ça. Alors, c'est là où on est sauvé. C'est exactement ça qui nous sauve. Parce que l'auteur, à un moment, il fait rarement ça dans ses pièces. Mais là, il était obligé, d'une part pour Oli, parce que jouer un enfant d'une dizaine d'années, 9-10 ans, voilà, par un adulte, on ne peut pas le faire jouer par un enfant, ce n'est pas possible. Donc c'est obligatoirement un adulte. Et faire jouer une femme qui est donc une arrière-grand-mère, donc qui a 90, 92, par une femme de 92 ans, une comédienne de 92 ans, ça devient très compliqué à trouver. donc il dit très clairement au départ, on fait semblant. On dirait que, vous voyez bien que je ne suis pas un enfant. En plus, moi, je fais un petit gag, comme j'ai plus beaucoup de cheveux, je retire ma casquette et je montre que j'ai plus beaucoup de cheveux. Voilà, mais ça, c'est pour bien montrer que je suis un adulte. Et puis, la mamie répond aussi qu'elle n'est pas vraiment une arrière-grand-mère. Donc, une fois que l'auteur a dit ça, nous, on peut tout se permettre. Et en même temps, le metteur en scène, Odile Grosset-Grange, est très exigeante sur le fait, on est quand même sur une corde raide. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer l'enfant. Il faut suggérer des... Donc j'ai beaucoup regardé mon fils qui a 7 ans et demi et j'ai certaines attitudes qui sont totalement piquées, que j'ai piquées totalement à mon fils. Mais tout en restant, c'est pas de l'imitation, quoi. Il faut suggérer l'enfance. Et je pense qu'il faut rester sur ce domaine-là parce que sinon après on est dans une caricature totale et ça ne fonctionne pas, quoi.
Ça marche pareil pour l'arrière-grand-mère, où on pourrait se dire, on pourrait se lâcher beaucoup plus à jouer l'arrière-grand-mère ou pas, Marie-Charlotte ? Dans le même esprit, parce que du coup, il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne aussi et qui se réponde.
Au tout début, dans le travail, moi, j'ai essayé d'amener, personnellement, moi, j'ai vraiment essayé de la jouer complètement gâteuse, complètement... Parce que c'est très drôle à jouer. Et puis aussi, l'idée du contraste entre justement ce qu'elle donne à voir et ce qu'elle révèle d'elle-même à travers la natation, mais ça pourrait être autre chose. Le contraste est très théâtral et efficace pour servir le propos. Justement, qui est à l'endroit de ce qu'on disait tout à l'heure et de ces deux enjeux parallèles, la relation intergénérationnelle et puis le dépassement de ses limites, qui est à l'endroit de l'inconnu, c'est-à-dire le rapport à l'inconnu, et où cette grand-mère, elle incarne complètement ça, c'est-à-dire le fait qu'on projette sur elle des choses, de la même manière d'ailleurs qu'on projette sur un enfant tout un tas de choses, et qu'elle désamorce complètement tous ces clichés et qu'elle se révèle avec un potentiel de générosité et d'apprentissage énorme. Donc moi au début, ouais, je me suis pas mal amusée là-dessus, et après avec effectivement Odile qui a une exigence, qui a son vocabulaire à elle, et aussi la nature des textes de Mike, donc l'auteur Mike Kenny qui est anglais. C'est un théâtre qui demande vraiment à être ciselé, c'est vraiment, nous on appelle ça du ping-pong dans le vocabulaire des comédiens, c'est-à-dire c'est des répliques qui sont très courtes et qui demandent un rythme assez soutenu et une grande précision dans l'interprétation.
Il y a une histoire de tempo, hein, très clairement, et particulièrement au début, sur la rencontre notamment, où il y a vraiment cette histoire de tempo. Enfin, je pense que, en tout cas, la sensation, c'est que le tempo a autant d'importance que le texte, presque.
Oui, complètement.
Oui, le rythme a beaucoup d'importance dans cette pièce. Oui.
C'est vrai que du coup, toutes mes acrobaties, bon, j'en ai gardé quelques-unes quand même, mais toutes mes propositions, au début je la faisais baver, enfin je donnais tout ce qu'il y avait de pire dans le troisième âge, en fait ça décalait complètement, puis ça desservait au final le propos, donc non, on est revenu effectivement, et Odile en ça, je pense qu'elle a, donc le metteur en scène, a une vision très exigeante et globale aussi du projet, qui fait qu'il s'agissait d'équilibrer et d'amener finalement à travers une forme j'ai pas envie de dire sobriété, parce que ça pourrait mettre les auditeurs sur une mauvaise piste, parce que je pense que c'est au contraire très truculent, mais en tout cas nous, du point de vue de l'acteur, de rester sur quelque chose effectivement d'assez de l'ordre du signe, et comme tu disais, je sais pas comment tu l'as dit Philippe tout à l'heure, de suggérer, voilà, qu'on est dans la suggestion, et aussi ça nous permet nous d'osciller entre des passages qui sont de l'ordre du récit et puis d'autres qui sont plus incarnés, et de marcher sur ce fil avec plus de légèreté, quoi.
Oui, parce que c'est important, l'écriture de Mike, ce sont souvent des personnages qui se racontent, donc régulièrement on casse le quatrième mur, donc pour être clair, le quatrième mur, c'est-à-dire qu'on parle directement au spectateur. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le quatrième mur. Et une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire au spectateur, un peu comme une aparté, mais c'est pas vraiment, c'est un peu plus subtil que ça chez Mike, on revient à une scène classique en rétablissant le quatrième mur, c'est-à-dire en jouant une scène entre nous comme si le spectateur n'existait pas. Et régulièrement, on fait des petites, on va appeler ça quand même des apartés, qui nous permettent, notamment quand je dis je suis pas vraiment un enfant, d'ailleurs regardez, c'est une aparté qui permet de donner une information et de parler du personnage. Le personnage se raconte lui-même au spectateur. Et c'est assez jouissif à jouer, parce que ça casse le rythme, ça remet du rythme quand c'est nécessaire, ça évite le pathos, parce qu'il ne s'engage jamais dans le pathos, Mike, et ça c'est merveilleux. Dès qu'il y a un petit moment d'émotion qui arrive comme ça, il s'arrête juste où il faut pour pas tomber dans le pathos. Ça, j'aime beaucoup.
Oui, puis c'est un élément fort aussi d'écriture de théâtre, en fait. Ça fait partie du monde aussi du théâtre, dans le fait de s'adresser, de revenir au texte, oui, de cerner un personnage. Je trouve que ça donne aussi une autre dimension complète pour le spectateur de ce qu'est la dimension du théâtre, du plateau.
Oui, là, on leur
parce
propose...
On leur propose l'extérieur, on leur propose l'intérieur, on leur propose, regardez, c'est ça un personnage. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que ça devient clair sur le théâtre. Le théâtre, il est extrêmement...
Sur les conventions du théâtre.
Oui, ouais. Voilà. Ah, oui. Et en étant spectateur, je trouve que l'enfant, il perçoit que, ah ben oui, je suis dans quelque chose... peut-être de ce que je m'attendais pas ou autre.
Quelque chose qui me parle directement par moment et donc qui ne me lâche jamais.
Voilà.
Et Mike, il fonctionne beaucoup comme ça dans la plupart de ses pièces. Là, il a rajouté l'élément de je suis pas un enfant et elle n'est pas une arrière-grand-mère. Il était obligé de le faire. Mais c'est le seul élément qu'il a rajouté. Sinon, le fait de faire des apartés, c'est régulier dans ses pièces et ça permet de ne jamais perdre le spectateur.
Ouais. C'est ça qui est magique dans le théâtre, c'est qu'il n'est jamais plus opérant que quand justement il est complètement mis à nu et complètement révélé avec tous ses artifices. C'est incroyable de se dire que finalement la fiction est d'autant plus crédible que le théâtre avoue ses artifices.
Exactement.
Et ça, c'est dingue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement les spectateurs, on leur dit bah voilà, on est dans un espace fictionnel, on vous demande de fournir l'effort pour croire que vous êtes dans une piscine alors que bon, il n'y a pas de piscine. À partir du moment où ce contrat il est passé, où il est passé de manière très simple et très transparente, finalement le spectateur est sans doute plus disposé dans cette relation de confiance qui est instaurée dès le départ à...
C'est mercredi, on a des spectateurs. Même en studio.
Voilà, qui sont d'autant plus, d'autant plus confiants pour s'embarquer avec nous dans l'histoire qu'on a à leur proposer, quoi.
Ces apartés permettent aussi à un public enfant qui détient moins les codes aussi peut-être du théâtre de pouvoir ne jamais décrocher. Enfin, c'est peut-être nécessaire aussi,
oui, évidemment,
parce qu'ils n'ont pas ces codes forcément. Enfin, le spectacle est proposé à partir des est proposé à des enfants à partir de 6 ans. 6 ans, on n'a pas les codes du théâtre, ou rares sont ceux qui ont les codes du théâtre en tout cas.
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que les enfants, en leur parlant directement, ça pourrait être effectivement extrêmement dangereux, parce qu'ils pourraient passer tout le spectacle à nous répondre. Ce qu'ils ne font pas. Ce qui arrive très rarement, c'est arrivé qu'ils répondent sur une phrase, mais c'est étonnant. J'ai du mal à me l'expliquer d'ailleurs, parce qu'effectivement, tout d'un coup, s'ils n'ont pas les codes, je te parle, tu me réponds. Et ils ne le font pas. Parce que je pense que le spectacle est suffisamment puissant et les thèmes évoqués et l'écriture de Mike est suffisamment puissante pour qu'ils s'attachent plus à l'histoire qu'à ces petites apartés.
Et puis ça rappelle aussi les jeux de l'enfance. Le théâtre, c'est aussi les jeux de nos enfants. C'est-à-dire que on pose le début du spectacle en disant « Eh ben voilà, c'est clair, on va faire semblant que... » Et on y va. Et on met tous les moyens pour aller jouer. Donc oui, pour moi, effectivement, la thématique, ça ne leur parle pas forcément à nos petits, mais la façon dont c'est mis en œuvre, la façon dont c'est expliqué, c'est rappelé, nous, adultes, rappeler...
On dirait que je serais, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais. Ça ils comprennent.
Voilà, et c'est posé comme ça, je trouvais... c'est pour ça que j'étais un peu...
Je sentais bien mon désaccord.
Voilà.
Sur les codes du théâtre, on peut les intégrer vite.
Le texte, on vient d'en parler, il est, et Cécile, on a eu une discussion un peu off en amont de cet échange, disait mais il y a une exigence de texte quand même. Voilà, vous l'évoquiez tout à l'heure, Marie-Charlotte, en disant voilà, c'est ciselé dans la façon dont c'est proposé, mais sans aucune lourdeur en fait. Il y a une espèce de. On pourrait avoir même la sensation, malgré cette exigence de texte, malgré quelque chose d'assez fin, on aurait presque la sensation que ce serait une scène ordinaire de piscine du quotidien, quoi. Enfin, il y a ce côté-là, il y a ce, pas de paradoxe, mais cette espèce de contrebalancement de quelque chose d'assez précis, d'assez fin dans la proposition. Et puis un truc qui est naturel à regarder.
Je pense que ce sont les grands textes se révèlent de cette façon-là. Tout ce qui, je sais pas, quand on voit un acrobate virtuose, par exemple. On se dit, mais presque je pourrais le faire. C'est simple. Et évidemment, dès qu'on essaie, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne dis pas qu'on est, là-dedans, nous, et je ne prends pas du tout pour un génie. Mais Mike a cette capacité de fournir un texte qui, effectivement, est très complexe, très travaillé, mais au rendu, il est accessible et simple. Il est là pour être transmis. Ouais. Après, aussi à nous, je ne me prends pas pour un acrobate génial, mais en tout cas, on essaye de faire au mieux pour servir ce texte et l'offrir sur un plateau d'argent sans le trahir. Et Odile Grosset-Grange, le metteur en scène, connaît très très bien Mike, elle le connaît personnellement, elle a déjà joué plusieurs de ses pièces, donc elle est très au fait de la façon dont fonctionnent les pièces de Mike. Voilà, c'est important de respecter ça, parce qu'on n'a pas un... D'ailleurs, on l'a joué combien ? On en est à la 140e, je crois. Et j'ai l'impression qu'on peut encore chercher, fouiller dedans. Et ça, c'est révélateur des grands textes. Un mauvais texte, au bout de la 20e, 30e, on en a fait le tour et on s'emmerde. Hein. Là, c'est jamais le cas. On est toujours en phase de redécouverte. On dit, tiens, on n'avait pas vu ça. Et c'est vraiment les révélateurs des grands textes.
C'est-à-dire qu'au bout de 140 représentations, il y a encore des choses de manière en termes de sensations qui arrivent à...
Ah oui, mais il faut. Je sais que l'image, en fait, il y a une mise en scène. Ça, il faut la respecter. Il y a un texte, il faut le respecter. On respecte le texte à la lettre, sauf quand on se trompe, des trous de mémoire, choses comme ça, ce qui arrive, enfin c'est assez rare. Voilà, mais après il faut. Comment dire, c'était quoi la question déjà?
On arrive encore à.
Au bout de 140, avoir soi-même encore des sensations de.
En fait, c'est une gageure, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre. La mise en scène et le texte. Et c'est comme quand les auteurs étaient obligés d'écrire comme Molière, avec les trois unités. Ils avaient beaucoup plus d'imagination, parce que les contraintes étaient complètement libératoires. Et moi, c'est un jeu de m'amuser dans ce cadre-là à essayer de tourner autour, voilà, sans le trahir.
Marie-Charlotte, la contrainte, elle fait le même effet, du coup, aussi sur le jeu, sur le travail, et sur le fait que ça fait maintenant un petit bout de temps que le spectacle tourne.
Mais ce qu'il y a de sûr, ce que disait Philippe, c'est que il y a des textes, effectivement, qui nous épuisent très vite.
Tu as des noms?
Non, mais qui révèle effectivement parfois, enfin qui nous renvoie, c'est souvent douloureux dans ce cas-là, qui nous renvoie comme une espèce d'incapacité à se renouveler, à ouvrir l'imaginaire, etc. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de pas. Ça m'est pas arrivé trop souvent, pourvu que ça dure. Et en tout cas, dans ce spectacle. Je pense aussi qu'effectivement, l'écriture de Mike, étant donné qu'elle repose beaucoup sur cette question du rythme et de la précision aussi, beaucoup de gags, enfin, des gags au sens noble du terme, et que ces gags-là, ils ne peuvent pas être, encore une fois, opérants s'ils ne sont pas très très bien rythmés. Je pense que du coup, ça nous oblige à une écoute entre nous deux, entre Philippe et moi, parce qu'on est les deux seuls personnages et les deux seuls interprètes sur le plateau, qui nous assure en fait un renouvellement, parce que Philippe, il est jamais le même, et que même si un jour il venait à se transformer en une espèce de machine, je verrais toujours l'humain et le sensible derrière la paroi de ses yeux. Donc du coup, il y a ça qu'on a en commun aussi, parce qu'on a beaucoup joué et parce qu'on commence à bien se connaître, et que justement on arrive à percevoir en l'autre ces moments de fragilité, ces moments de doute, ces moments où il s'échappe, et ben toutes ces choses là elles nous nourrissent et elles nous permettent de réinventer nos personnages à chaque fois et d'essayer d'être au présent. Non, en fait, à chaque fois qu'on reprend ce spectacle, moi je fais le constat et je suis toujours un peu surprise de réaliser que je m'amuse bien, en fait, je m'amuse beaucoup sur ce spectacle. Et avec Philippe aussi, ça tient beaucoup à lui.
De toute façon, voilà, j'imagine que quand on n'est que deux sur scène, il n'y a pas le choix, il faut que ça fonctionne.
Mais ouais, il faut un bon choix. C'était pas gagné au début.
Non, mais
c'était pas gagné parce que Philippe et moi, on est très différents pour le coup. Et là, ça, la metteur en scène, c'est vraiment un challenge qu'elle s'est lancée, qu'elle nous a lancé. On est des acteurs qui ne vient pas tout à fait de la même école, enfin, entre guillemets. Mais ce qu'elle a repéré, je pense, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais je pense qu'elle a repéré cette capacité d'écoute chez l'un comme chez l'autre, et qui nous assure de nous trouver à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas du tout la même manière d'aborder le texte, pas du tout la même manière d'aborder la scène. Donc ça a été... notre histoire. Du coup,
Non, mais du coup, oui, ça répond tout à fait bien au truc où effectivement, je partais dans l'idée que c'était obligé que ça fonctionne quand on n'est que deux. Enfin, ça veut dire que normalement, ça va jouer contre les deux. Donc, il n'y a pas d'élément extérieur ou un autre comédien qui viendrait redonner la réplique, qui relancerait ou autre. À deux, ça fonctionne ou tant pis. Il y a un truc un peu fatidique, quoi, truc, ça fonctionne ou pas.
Oui, mais je trouve que c'est très beau et très juste ce que vous disiez aussi, Marie-Charlotte, sur du coup, le travail de comédien et de relation entre comédiens. Ça, voilà, c'est pas seulement un texte et puis on applique un texte, une direction d'un metteur en scène, c'est que au quotidien et au fur et à mesure des représentations, ça vit, ça continue de vivre, de s'écouter au moment des représentations, au fur et à mesure des représentations. Voilà, pour me pointer le sens même aussi du théâtre ou du vivant qui se fait en amont, mais qui continue de vivre, d'exister, de se construire au moment des représentations.
Ça s'appelle du spectacle vivant, voilà, et ça apporte très très bien son nom, c'est-à-dire qu'on peut crier victoire à la fin d'une représentation, mais on remet ça nous-mêmes, le jour même ou le lendemain, on remet les pendules à zéro et il faut y retourner, quoi. C'est à la fois violent et en même temps très excitant. Ouais.
J'ai entendu un enfant tout à l'heure dans la salle en temps qui me disait « Mais en fait, c'est comme si on allait au cinéma, sauf qu'il n'y a pas d'écran et qu'il joue d'une seule fois. » Je trouvais ça mignon. Comme, c'est comme au cinéma, donc sûrement en référence avec la salle, le strapontin, on s'assoit et on regarde, quoi. Et bien, c'est comme au cinéma, c'est comme un film au cinéma, sauf que. J'aime bien ce « sauf que ».
C'est ce qui fait toute la... très important, le fait que ça soit qu'une seule fois.
Ouais. C'est fait en une seule fois.
Je
trouvais ça mignon.
Eh bien, merci à vous Marie-Charlotte et Philippe, et puis bien sûr on invite nos auditeurs et spectateurs dans la salle.
Merci
à vous.
On a un temps limité sur la terre, et pourtant moi je ne sais pas quoi faire. Je me limite, moins vivant, mes envies pour cibler mieux soi-disant mes désirs courts. Je reste quoi, mais il me reste quoi? Je m'en vais, je reste quoi? Je file, j'empile des piles, je peine, mais je m'enfile des détours sans arrêt. Un peu pecno, un peu hipster, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu client, un peu austère, je veux l'ombre, je veux la lumière. Je n'ai jamais su choisir entre le présent, le passé et l'avenir. Je recompte, je me rends compte les hôtels. Je me tue sur leur hôtel. Je préfère me dire que je n'ai plus le temps. Je préférais être curé de temps en temps. Réduit par la doxa, mais quel enfer. Je distille de l'ennui dans un désert. Un peu content, un peu colère. Je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu clinquant, un peu austère. Je veux l'ombre, je veux la lumière. J'en ai vu des tas devant moi défiler, d'être beau, trop bien, trop jeune, trop profilé. Moi je suis vieux, je suis trop gros, plus très jeune. M'en parle pas, c'est comme ça, ça me fout le seum. Le problème c'est que moi je sais que tous les coups ne sont que des coups d'essai. Alors comment faire pour me motiver dans ma vieille carcasse à moitié dévorée? Un peu régime, un peu dessert. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu artiste, un peu scolaire. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu bobo, un peu vulgaire. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu techno, un peu hipster. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Moi, j'aurais adoré être violoniste, tu vois. Le problème, c'est que la chanson, c'est pour ça que j'existe. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Casser mon violon et me couvrir de paillettes? Et en politique, c'est pareil, tu vois. Je suis vraiment de gauche, et puis je suis un peu droite. Alors du coup, je suis devenu ce... Du coup, je suis devenu ce... Du coup, je suis devenu socialiste. Et comme je suis pas le seul, et ben voilà. Un peu bobo, un peu vulgaire. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu régime, un peu dessert. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu artiste, un peu scolaire. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière. Un peu techno, un peu hipster. Je veux l'ombre, je veux l'ombre, je veux la lumière.
C'était Debout sur le Zinc avec J'ai vu la lumière. On les retrouvera le samedi 18 février à Évreux, toujours à la salle de musiques actuelles.
Et il est l'heure d'arriver à notre agenda du mois de janvier. On vous le rappelle, un agenda qui est bien entendu, qui n'est bien entendu pas exhaustif. Nous retrouvons alors dans il y avait Bastard dont on avait parlé. Quand est-ce que ça se joue?
Le 24 janvier à Évreux au Cadran à 20h.
Et puis on l'a dit à l'instant, Allez Oli Allo, spectacle jeune public, là c'est demain, samedi 7 janvier à 17h à Évreux au Cadran. Ou pour ceux qui ne pourraient pas et qui auraient envie de se rattraper, jeudi 12 janvier à 20h à Louviers au Théâtre du Grand Forum cette fois.
Après, Cécile.
Oui,
alors coup de cœur ou tes annonces?
Non, enfin un coup de cœur, oui et non. De beaux spectacles à découvrir. On accueille La Mouette de Thomas Ostermeyer, enfin La Mouette de Tchekhov, mis en scène par Thomas Ostermeyer. Alors là, c'est pareil, vous avez la possibilité de le voir deux fois si vous voulez, ou en tout cas, ça vous donne plusieurs dates. Vendredi 20 janvier et samedi 21 janvier à 20h chaque soir à Évreux au Cadran.
Oui, grand spectacle de théâtre. Hein. C'est Thomas Ostermeyer, c'est quand même la référence européenne sur le théâtre aujourd'hui contemporain. Il a travaillé avec une distribution de comédiens français assez remarquable, d'excellents comédiens. C'est un texte magnifique à la base, hein, Tchekhov, grand texte de théâtre, grand texte littéraire. Voilà, c'est un spectacle, grand spectacle de théâtre que nous vous conseillons là au mois de janvier. C'est vraiment incontournable. Il faut savoir que ce grand spectacle tourne très peu dans le Grand Ouest. C'est l'une des dates à voir dans l'Ouest. Voilà. Après, nous avons, oui, Barbagallo, qui arrive le 15 janvier.
Le 15 janvier, premier rendez-vous musique actuelle de l'année 2017. Dimanche 15 janvier à 19h, toujours à la salle des musiques actuelles.
Et puis ce soir, à Louviers à 20h, c'est Josiane Balasco, grande actrice que l'on connaît à travers le Théâtre du Splendide, mais excellente comédienne. Elle est seule en scène dans un monologue de Simone de Beauvoir, La femme rompue. C'est ce soir à Louviers, au Théâtre du Grand Forum, à 20h.
Puis pour aller aussi un petit peu plus loin, on du
plus
côté...
Plus loin que Louviers?
Ouais. Ouais, plus loin que Louviers, puisqu'on va jusque Val-de-Reuil, et notamment sur l'île du Roi, à la Factory, où on avait installé notre studio l'année dernière, à l'occasion d'une émission.
On l'avait installé aussi en décembre, sur une soirée autour du rap, notamment avec... Yo qui avait joué sur une formule avec, je suis en train d'oublier de mémoire, la personne qui l'accompagnait, en tout cas avec des instruments anciens, et Yo qui posait ses textes dessus, et également le groupe ZAD Social Club, voilà, des zadistes qui posaient leurs textes de rap. Voilà, je me permets de le souligner parce qu'elle est, cette émission est en podcast disponible sur le site de Principe Actif, et elle était faite aussi de La Factory.
Et puis c'était il y a pas si longtemps puisque c'était en décembre donc voilà, donc là on reste à La Factory mais plutôt sur fin janvier avec un apéro poésie autour de la calligraphie et de la marionnette. Après c'est le rendez-vous annoncé, mais il se passe plein de choses, hein. Il y a des résidences aussi d'artistes, il y a des ateliers de pratique artistique, donc soyez curieux, hein, allez faire un tour jusque l'île du Roi.
Et puis comme ils disent à La Factory, c'est un bar aussi La Factory, et on peut y aller à n'importe quel moment boire un coup.
Voilà, mais pour de vrai, boire un coup. C'est vrai.
Moi, je rajouterais aussi la date du 31 janvier, le dernier jour du mois de janvier, à 20h, un spectacle de danse, que voilà, c'est un peu mon coup de cœur en danse sur le mois de janvier. C'est Ad Noctum, de la compagnie de Christian Rizzo. Et là, il s'agit d'un hommage, d'une ode à la danse de couple. Alors, voilà, la danse de couple classique, on pense que c'est pour une certaine génération. Là, elle est totalement revisitée par un chorégraphe d'aujourd'hui, hein, contemporain, où il met en scène un homme et une femme, un couple, à danser. Et là, c'est d'une épure et ça nous emmène, ça tourne jusqu'au vertige. C'est un très beau moment, très délicat, épuré que nous vous proposons avec Ad Noctum.
Ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, non, on ne l'aura jamais fait le tour parce qu'il se passe vraiment plein de choses en janvier. Donc, soyez curieux. Allez faire jeter un œil sur les internets qui vont bien. Et puis, ouvrez les petites plaquettes. Soyez curieux, quoi.
Exactement. Nous, on va vous quitter en vous donnant rendez-vous le vendredi 3 février pour votre scène de vie du mois de février. Et on vous quitte avec un traditionnel extrait de film, une bande-annonce, je crois.
Oui, un clin d'œil à Jim Jarmusch. D'ailleurs, que le Tangram accueille avec une journée cinéma qui lui est consacrée le samedi 28 janvier. Vous verrez Dead Man et Night on Earth. Mais là, c'est son dernier film, Patterson. Une très, très belle... un très beau travail autour de ce qu'est le temps de la poésie aujourd'hui. Patterson.
Eh bien, on vous quitte là-dessus.
Morning, Donnie. Everything okay?
No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you?
I'm okay. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension. Time.
Your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet.
Hey, yo, that's an English bulldog, right? Dog like that, get Jack. You know what I mean? Like Dog Jack, my G.
Dog Jack. Well, it gives me something to look forward to then, I guess.
Ooh.
Working on a poem for you.
A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem.
I had a beautiful dream. We had twins.
Twins.
May I ask if you two are apart?
Just a bus driver.
Oh.
This is Patterson Bus 23. I have a situation.
Nobody move!
Man, what would you do? You love somebody, and she says she doesn't want you.
Damn, brother. You should be an actor.
I am an actor.
Negroes with attitudes, whole squad is all mad. Hey, Pugsley, what are you looking at? I'm guessing this is your human ball and chain, right, Pimpin'?